Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir une connaissance personnelle, Bruno Maltor. Si ce nom ne vous dit rien, c'est que vous ne vous intéressez probablement pas au voyage, car Bruno est sans aucun doute possible l'un des blogueurs voyage francophones les plus importants actuellement. Si j'ai souhaité le recevoir, c'est parce que, au quotidien, Bruno sait ce qu'est un Happy Work. Facile, me direz-vous, il travaille pour sa passion. Eh bien justement, si vous aussi vous vous posez des questions sur comment faire pour changer d'orientation, ou si vous souhaitez tout simplement découvrir l'univers d'un passionné par son travail, cet épisode est pour vous. Bonne écoute. Bonjour Bruno.
Salut Gaël.
Bruno Maltor. Bruno Maltor. Alors, il faut préciser, Bruno, je t'ai rencontré il y a quelques années, et je ne sais pas si je dois te considérer comme mon petit frère ou comme mon grand frère ou comme un exemple, mais en tout cas, je suis incroyablement heureux de te recevoir dans ce Happy Work. Donc, pour une fois, je vais tutoyer mon invité parce que je ne me sentais pas, pour être très honnête, de te vouvoyer. Alors, je dois dire que je suis particulièrement heureux de te recevoir dans Happy Work parce que je crois que tu fais partie de ces quelques personnes qui expérimentent quotidiennement ce qu'est un Happy Work. Et je dois dire que j'ai une certaine dose d'admiration pour toi. Oui, je pèse mes mots, mais oui, je promets. Alors, dans l'introduction, Bruno, je précise, tu n'as pas le droit de parler. Tu pourras réagir si j'ai dit des grosses bêtises. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, tu es ce qu'on appelle un blogueur voyage avec ton site web qui s'appelle Votre Tour du Monde. Oui, on te paye pour voyager. Mais force est de constater qu'après 8 ans de dur labeur, on peut dire que tu es, le blogueur voyage francophone le plus influent, en tout cas, l'un des plus influents. Et pour cela, je suis allé voir il y a quelques minutes quelques chiffres, histoire quand même de voir, je vais utiliser une expression de jeune, tu pèses dans le game. Alors, c'est Bruno Maltor, 213 589 followers sur Facebook, 335 000 sur Instagram, 209 000 sur YouTube, 148 222 sur LinkedIn, et ton site web http://www.votretourdumonde.com enregistre plus de 2 millions de visiteurs uniques chaque année. Bref, chers amis, vous l'aurez compris, Bruno est ce que l'on peut appeler un influenceur. Alors, je dois bien dire qu'il y a une toute petite déception sur Twitter puisque tu ne comptes que 17 300 followers sur ce média. Donc, j'ai envie de dire, peut mieux faire. Bon, plaisanterie mise à part. Si j'ai voulu te recevoir, c'est parce que souvent, derrière ce qui brille, il y a beaucoup de travail, de l'acharnement, des déceptions parfois, j'imagine, et beaucoup, beaucoup de courage. Et je souhaitais avoir ta vision de travailleur indépendant qui a créé son business parce que nous vivons une période assez extraordinaire dans laquelle beaucoup de personnes se posent la question suivante. Mais dis donc, plutôt que de bosser pour quelque chose que je n'aime pas vraiment, pourquoi est-ce que je ne ferais pas quelque chose qui me plaît quotidiennement? Alors, toi, tu es diplômé entre autres de Kedge, je vais passer la liste de tes diplômes, tu as fait des stages, tu commences ta carrière de façon classique comme chargé d'études marketing digital chez TF1, mais un an avant de commencer chez TF1, tu avais fondé Votre Tour du Monde et tu plaques TF1 au bout d'un an et demi pour te consacrer à ta passion. Pourquoi ?
Pourquoi j'ai refusé TF1 ? Effectivement, en fait, j'étais en alternance de Master 2 chez TF1 à l'époque, en 2013-2014. Et en fait, il y avait deux options qui s'offraient à moi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on était loin de l'époque où on nous appelait entre guillemets influenceurs, un terme que j'apprécie pas forcément, mais qui a le mérite d'englober un peu toutes les activités que je fais. Donc, j'avais ce blog qui commençait à prendre de l'ampleur, mais qui ne me rapportait pas non plus des masses. Et j'avais ce métier un peu plus stable, en tout cas, qui s'offrait à moi avec TF1. Je n'ai pas présenté TF1, c'est une grosse boîte, donc il peut faire rêver pas mal de monde, surtout quand tu as fait une école de commerce, c'est un peu le Graal dans les médias avec Canal, à une époque en tout cas. J'ai eu deux options qui s'offraient à moi. Soit je prenais le choix de la raison, à savoir TF1, signer mon CDI et ma famille était contente pour moi, quoi. Soit je prenais le choix de la passion en me disant que j'avais pas grand-chose à perdre, que mon blog, c'est ce qui me faisait kiffer au quotidien, ce qui me faisait me lever avec le sourire, ce qui me faisait un peu rêver quoi au final. Et je me suis dit, ben, en fait, je n'ai pas grand-chose à perdre que d'essayer cette aventure pendant un an. Et puis, à la fin de l'année qui se sera écoulée, je ferai le bilan. Et si jamais je dois prendre un autre taf un peu plus classique, ben, je reviendrai sur mes pas et je le ferai. Donc, j'ai tenté l'aventure Votre Tour du Monde et ça fait 7 ans que je la tente, l'aventure. Bon, en tout cas, c'était ce que je me disais un petit peu. Je me disais, donc, au pire, au début, tant pis, quoi. J'essaye un an et un an, c'est quoi dans une vie quand tu vis normalement, entre guillemets, 80 ans. Je me suis dit, voilà, c'est un 80e de ma vie où je vais tenter de vivre de mon kiff. Donc, à la rigueur, j'aurais essayé, au moins, j'aurais pas de remords. Comme on dit, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets ou l'inverse. Bref, je sais plus trop, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça qui a fait que j'ai pris cette décision. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, si ce n'est d'essayer de vivre de ma passion. Et je trouvais que c'était cool comme motivation.
Alors maintenant, Bruno, je vais peut-être casser un mythe et je vais peut-être te casser le moral. Je crois que tu as passé la barre fatidique des 30 ans.
Tu es donc, aussi.
Donc ce que l'on peut appeler pour un jeune diplômé, déjà quelqu'un avec de l'expérience. Et je trouve ça très intéressant parce que je constate que la jeune génération, donc celle qui vient d'être diplômée, a beaucoup d'appétence pour justement ce genre de métier de travailleur indépendant, d'influenceur, même si tu n'aimes pas ce métier, je suis désolé Bruno, à un moment il va falloir que tu l'assumes parce que tu influences les gens, mais pas que parce que tu as beaucoup de followers, c'est parce que ton message est quand même incroyablement positif et je crois que cette influence-là, il ne faut pas la renier, il faut l'assumer et être fier de ça. Mais par contre, je vois qu'il y a beaucoup de gens de 20 ans qui se disent « Tiens, j'aimerais bien être Bruno Maltor » ou « J'aimerais bien être influenceur ». Quel conseil tu donnerais à ces gens qui finalement voient l'aboutissement, mais pas véritablement la base qui me semble, chez toi en tout cas, être la passion?
Ouais. Ce qui est marrant, juste je reviens sur le rêve des gens, effectivement, de devenir influenceur, youtubeur, etc. Il faut savoir que c'est le métier qui fait le plus rêver les 6-13 ans aujourd'hui. Fut une époque, c'était astronaute. Aujourd'hui, le métier qui fait le plus rêver les enfants, c'est youtubeur, vlogueur. C'est quand même un truc de fou. Par rapport à ce métier-là, je pense que comme tous les métiers, c'est un métier passion. C'est-à-dire que moi, comme tu le disais bien, il y a énormément de travail en fait. Même si évidemment, il y a beaucoup de kiff, il faut savoir que je pense que je bosse minimum 70 heures par semaine. Donc, si tu fais ça pour les mauvaises raisons, à savoir espérer être invité partout à droite à gauche gratuitement, etc., etc., tu n'iras pas très, très loin. Donc, si tu veux faire de l'influence, lance-toi, mais uniquement sur le sujet qui te passionne le plus. Sinon, ça ne marchera pas pour toi, je pense.
Et toi, comment tu l'as trouvé ta passion ?
Le voyage, c'est ma passion depuis vraiment tout petit. C'est-à-dire que mes parents avaient affiché une carte du monde à côté de mon lit quand j'avais 4-5 ans et que je m'amusais à l'époque à apprendre tout le nom des capitales des pays du monde. Parce que pour moi, c'était un peu Disneyland Paris. Je viens de Haute-Loire où il n'y a pas beaucoup de grandes villes, etc. Honnêtement, hein, j'ai un lieu dit de 200 habitants et j'adore l'Auvergne. Je suis trop fier d'être auvergnat. Mais voilà, c'est juste pour donner un peu de contexte. Et je m'amusais à apprendre le nom des capitales du monde et je demandais à mes parents de me faire réciter. Et au fil du temps, en grandissant, je me suis rendu compte que tout ça existait vraiment. Et c'est là que mon éveil est arrivé et que je me suis dit, ben, j'ai appris ces noms d'endroits, j'ai envie de les visiter et de les découvrir de mes propres yeux. Donc, c'est venu un peu bêtement et après, c'est devenu une vraie passion. J'ai grandi avec un Arthus Bertrand, j'ai grandi avec « J'irai dormir chez vous », tout ça. Et j'ai eu envie d'explorer le monde à mon tour.
Bien, en fait, alors, je crois que la première fois où je t'ai rencontré, c'était maintenant il y a quelques années. Je sais que tu n'en es pas conscient et je sais que tu n'aimes pas tellement qu'on dise ça. Enfin, en tout cas, je vois toujours dans ton regard un truc un peu dubitatif. Mais j'imagine que pour les jeunes générations, on retrouve dans tes contenus le kiff que moi j'avais il y a très longtemps quand je regardais les émissions de Nicolas Hulot. Et je trouve que ça amène une part de rêve. Et c'est pour ça que je crois qu'il va falloir un jour que tu arrêtes de renier ton statut d'influenceur parce que c'est un beau mot. Je crois qu'effectivement, tu as bien résumé. Les jeunes voient le côté influenceur, je vais avoir des trucs gratos, puis on va me reconnaître. Et au final, j'ai eu la chance de travailler avec Nicolas Hulot. Sa propre notoriété, il s'en fout, mais comme de ses premières chaussettes. Par contre, de faire découvrir le monde, d'apporter un message positif, ça, c'est important. Et donc, je crois qu'il faut... Ta mission, est-ce que ça ne peut pas être de redorer justement ce statut d'influenceur? Et peut-être, et c'est pour ça, honnêtement, je voulais que tu interviennes, Bruno, pour que tu démystifies ce côté magique. Je suis personne un jour et j'ai des millions de followers le lendemain. C'est quand même beaucoup de travail. C'est 70 heures par semaine, tu disais. Mais j'imagine que la période actuelle, elle doit être difficile pour toi.
Alors, il y a plein de choses. Effectivement, souvent, on me pose la question c'est quand que ça a explosé pour toi? Mais en fait, il n'y a pas eu un moment où je suis passé de un abonné à plus d'un million cumulé aujourd'hui. Comme on le disait très bien, ça fait depuis 2012 que mon blog existe. C'est vraiment 9 ans de travail quotidien, tous les jours, à faire des vidéos, à faire des photos, à essayer de progresser sur plein de sujets. Donc ça, c'est clair qu'il n'y a pas de secret, de miracle pour devenir, entre guillemets, influenceur réputé, je dirais, du jour au lendemain. Et l'autre question, c'était quoi déjà ? C'était ?
L'autre question, Bruno, c'était sur le fait d'avoir une influence positive et de ne pas renier ce mot, au même titre que Nicolas Hulot a eu une influence positive sur ma génération. Mmh. Alors, il l'a encore, mais pour d'autres raisons. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne serais pas ce porte-parole d'un monde qu'il faut préserver, d'un monde qu'il faut découvrir ? Puis oui, un côté un peu… Moi, ce que j'aime bien dans tes vidéos, dans ton… Tu as toujours ce regard de gamin qui nous fait se dire on peut se marrer en regardant un volcan, on peut se marrer en Auvergne, je précise, donc pas de volcan forcément en Indonésie, tout le monde n'a pas l'occasion d'aller voir le Merapi, mais voilà, on peut s'émerveiller de petites choses. Et ta visite de Paris, par exemple, j'engage les gens à aller voir cette vidéo-là, bah oui, c'est une bonne influence, c'est pas un vilain mot.
C'est pas un vilain mot, et en fait, c'est pas le mot influenceur qui me dérange en soi. Même si je trouve qu'il est un peu gourou, passons là-dessus, c'est plus le fait que ça englobe tous les gens qui sont dans cette pratique-là. Que ça soit, et j'ai rien contre ces gens-là, mais que ça soit ces gens qui sortent de la télé-réalité et qui ont du jour au lendemain 2 millions d'abonnés et qui n'ont pas forcément trimé comme moi pour avoir 1 million d'abonnés sur mes réseaux, ces gens-là, ils vont peut-être faire des pubs pour des dentifrices dégueulasses qui te donneront les dents blanches pendant 2 semaines, mais qui vont te les ruiner pour toujours. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est la seule chose qui me dérange un petit peu avec ce terme-là. Après, moi, je n'ai aucune honte au quotidien à me considérer comme créateur de contenu, comme inspirateur. J'aime bien ce terme, même s'il est trop proche d'aspirateur, c'est pour ça qu'on n'emploie pas trop, tu vois. Mais non, moi, j'adore inspirer les gens. J'adore donner l'envie à quelqu'un de tout plaquer pour essayer de vivre l'aventure de sa vie. J'adore donner l'envie à des gens d'essayer de faire des expériences inoubliables. Ça, j'en suis trop fier et je reçois tous les jours des témoignages de gens qui me disent merci parce que c'est toi qui m'as inspiré à aller grimper un volcan en éruption au Guatemala ou alors à aller m'installer à Montréal ou alors juste à faire un tour d'Europe en train. Ça, c'est trop, trop cool et j'en suis trop fier. C'est juste le côté un peu genre, ça englobe tellement de choses ce terme-là. C'est comme si on disait un chanteur, un DJ et un pianiste, on les appelle tous artistes. Bah non, parce que c'est pas la même chose, si tu veux. C'est juste cette chose-là qui me chagrine un petit peu, mais de toute façon, il faudra faire avec, parce que comme tu le dis très bien, c'est un terme qui aujourd'hui est dans le milieu en général. Et j'essaye, moi, au quotidien, en tout cas, de montrer que l'influence peut être positive, peut être intéressante, enrichissante, que ce soit en anecdote, en histoire, en humour, en good vibes, tout ça, quoi.
Alors, moi, de façon beaucoup plus modeste que toi, j'essaye d'influencer sur le bien-être au travail, comme tu le sais. Et quand j'entends Bruno Maltor, une des personnes que je respecte vraiment professionnellement, me dit « je travaille 70 heures par jour ». J'imagine que tu ne déconnes.
Par semaine.
Par semaine, par
jour. Ça ferait beaucoup.
Voilà, c'est la fin de journée, il faut que j'arrête. Moi aussi, je travaille trop. 70 heures par semaine, bien évidemment. J'imagine que tu ne déconnectes absolument jamais. Est-ce qu'un Bruno Maltor pourrait faire un burn-out ou finalement, est-ce que la passion emporte sur tout ?
C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font justement ce qu'on appelle un burn-out et il y en a peu qui osent en parler. Parce qu'en fait, on a tellement une vie qui fait rêver les gens que d'oser te plaindre, ça pourrait être potentiellement mal vu. Moi, honnêtement, je n'ai jamais eu cette sensation que je devais à tout prix déconnecter. Je n'ai jamais eu cette sensation que j'allais faire un potentiel burn-out, entre guillemets. Alors après, je ne sais pas si ça arrive sur le long terme ou je ne sais quoi, mais moi, j'aime tellement ce que je fais au quotidien que pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé. Je ne dis pas que ça m'arrivera jamais, peut-être qu'un jour j'en aurai vraiment marre et j'aurai ce sentiment de burn-out, ce qui n'est pas encore le cas. Tu connais sans doute beaucoup plus le pourquoi du comment par rapport à tout ça.
Mais toi, dans 2 secondes, tu vas me traiter de vieux et ça, j'aime pas.
Non, du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que non, pour l'instant, je me lève. En fait, mon moteur depuis 7 ans que je fais ce métier à 100%, c'est de me lever avec le sourire. Tant qu'il y a ça, je me dis que globalement, oui, il y a des jours où tout n'est pas parfait. Je ne vais pas dire que tous les jours sont parfaits. Des fois, ça me fait chier de faire des trucs, etc., comme pour tout le monde. Mais globalement, je me lève quand même avec le sourire et tous les jours, je me dis que j'ai une chance inouïe. Donc, pour l'instant, ça va. Mais c'est un sujet qui est super intéressant, le burn-out dans l'influence. Hein. C'est un sujet qui est réel. J'ai plein de potes à moi qui ont fait des burn-out, qui n'ont jamais trop osé en parler sur les réseaux parce qu'ils avaient peur de se faire juger par leur communauté, parce que évidemment on a des vies de rêve, évidemment je voyage partout autour du monde et j'ai cette chance là d'avoir exploré des tas de pays, d'avoir traversé 3 fois l'Europe en train, etc., etc. Mais du coup c'est vrai qu'il y a des gens qui se rendraient pas compte que ça reste un travail, que ça reste beaucoup de taf, que ça reste levé assez souvent à 4 heures du mat pour grimper des endroits, pour avoir un beau lever de soleil, etc., etc., que ça peut être épuisant. Donc je connais des potes à moi qui n'ont pas osé en parler, qui ont coupé pendant des mois entiers et qui sont juste revenus en mode oh ça faisait longtemps, sans expliquer le pourquoi. Donc alors, c'est un vrai sujet, hein.
J'aime beaucoup que tu dises, et très honnêtement, il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton métier, parce que j'aime à rappeler à toutes les personnes qui travaillent que généralement, c'est la proportion, c'est la loi de Pareto. Sur 100% de son travail, on aime ou on adore 80%, et il y a 20% qui nous saoule. Et c'est normal et il faut l'assumer. Moi, par exemple, là, demain, je sais que je vais avoir une demi-journée comptabilité. Autant te dire que ce n'est pas ma plus grande passion. Toi, qu'est-ce qui te saoule dans ton travail ?
Typiquement, ouais, la compta aussi, c'est un peu relou parce que moi, je suis sur un métier créatif, etc. Et quand on m'oblige à rester derrière des ordinateurs, des tableaux, c'est pas ce qui me fait kiffer. Ça peut être parfois en fait l'incertitude qui va me fatiguer. C'est, tu vois, typiquement, on le disait un peu plus tôt, la période là, elle est assez compliquée pour tout le monde, notamment pour moi. Je suis blogueur voyage et là, ça fait 3-4 mois que j'ai pas bougé de chez moi. Je pourrais en soi, mais je le fais pas parce que voilà, j'ai envie d'être un peu. De pousser les gens à être un peu dans la responsabilité, etc. Donc voilà. Mais tu vois, l'incertitude parfois de certains moments où tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer de ton année, ça peut être usant, tu vois, parce que moi, je suis freelance, j'ai une entreprise et voilà, il y a des mois où ça va cartonner, il y a des mois, je vais avoir zéro prise de contact pendant des semaines entières. Et là, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et tu as des collaborateurs avec qui tu bosses que tu vas devoir payer, mais toi, ben, tu as zéro argent qui rentre, donc ça fait un peu peur. C'est un peu au final toutes les responsabilités d'adultes qui me font un peu peur, tu vois, la compta, ce genre de truc. J'ai beau avoir 30 ans, je me considère encore un peu comme un bébé, tu vois. Mon père est assureur, donc il gère toutes ces conneries pour moi.
Bruno, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu viens de basculer dans le monde des darons.
Ouais,
comme
je
dirait
crois.
Mon beau-fils.
Je crois, et ça fait peur.
Mais non, c'est vachement. Mais tu sais que moi, j'ai 50 ans, donc j'ai 20 ans de plus que toi, et finalement, ces craintes, on les a toujours. Il y a le confort d'être salarié, l'inconfort, mais l'indépendance. Bah, d'être indépendant, mais oui, il y a de l'inconfort, mais il y a ce bonheur d'être indépendant. Mais justement, je vais reprendre un petit peu un sujet qu'on a abordé au tout début. Quelques conseils tu donnerais à un salarié qui se dit. Pas forcément faire blogueur voyage, parce que très honnêtement, je pense que ça fait partie des passions, on l'a ou on l'a pas. Moi, tu me dirais, deviens blogueur voyage, je te dirais, mais sérieux, Bruno, moi, j'adore être dans mon appart, qu'est-ce que tu me saoules à vouloir devenir blogueur voyage ? Ouais. Mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est salarié, qui se dit, j'aimerais bien être indépendant, c'est quoi la démarche ?
La démarche, pour moi, elle est assez simple, c'est quand même de regarder déjà ce qui te plaît au quotidien, ce qui te passionne, parce que être indépendant sur un sujet qui ne te fait pas rêver, très vite, ça va te saouler en fait.
Tu veux dire que devenir travailleur indépendant sur la compta, tu verrais pas.
Bah, à part si tu es passionné par la compta, personnellement, ça me ferait très très peur et je pense pas que je serais très heureux. Mais il y en a qui adorent ça. Hein. Mon comptable, il se régale. C'est sa passion au quotidien. Comme quoi, hein, Excel, ça peut faire rêver certains. Et du coup, non, mais plus sérieusement, je dirais que justement, moi, ce que j'ai trouvé ça trop cool par rapport à mon parcours, c'est que j'ai lancé mon blog en parallèle de toutes mes expériences. Mmh. Et en fait, c'était un petit projet pour le kiff à la base et c'est devenu mon métier. Je pense qu'il ne faut pas se lancer non plus dans le plus grand des inconnus comme ça du jour au lendemain en mode j'ai envie, tu fais n'importe quoi, de faire un blog, je ne sais pas moi, sur les échecs ou sur ce que tu veux. Je pense que c'est cool de le lancer à côté de ton activité principale pour voir un petit peu à quel point ça prend, etc., etc. Et si tu vois qu'il y a une opportunité à moyen terme, après 1 ou 2 ans, à avoir ce side project, comme on appelle ça chez nos amis anglophones, eh ben, te lancer. Mais je trouve ça cool, tu vois, de d'abord tâter un petit peu le terrain, de ne pas partir vers l'inconnu du jour au lendemain, tu vois, et de voir si ça te plaît vraiment déjà, d'essayer de développer ton petit projet perso. Et si c'est le cas, ben, pourquoi pas te lancer à moyen terme.
Bon, alors là, c'est le mec sérieux qui va reparler parce que je vais faire la petite vignette juridique. Parce qu'en fait, on a une grande chance en France qui ne se sait pas, c'est si vous êtes en CDI, vous pouvez très bien être travailleur indépendant tant que ce n'est pas un truc concurrent de votre boîte, parce que ça s'appelle de la concurrence déloyale, mais vous pouvez tout à fait tester une idée comme ça en parallèle de votre CDI et c'est effectivement le moyen le plus sûr et le plus sécur plutôt que de se lancer, tiens, ouais, je vais me lancer dans mon projet et partir comme un fou furieux.
Ouais,
ce que
c'est
tu pouvais faire parce que tu étais jeune, tu avais peu de... Enfin, à ma connaissance, tu n'as pas encore 4 ou 5 enfants à charge, tu n'as pas encore d'emprunt.
J'en ai 2-3 au Pérou, mais je ne les ai pas encore vraiment déclarés, donc ça va.
Ça, c'est très, très moche, Bruno. C'est très, très moche. Alors, Bruno, ça va être l'avant-dernière question. On vit quand même une période, et toi qui es dans le voyage, elle est encore plus particulière. La période que l'on vit depuis mars de l'année dernière est quand même assez hallucinante. Est-ce que tu penses que malgré tout, on apprendra, on tirera quelque chose de positif de cette période, ou finalement, pour toi, tu te dis vivement que ça se finisse et qu'on revienne à ce qu'on connaissait avant?
J'ai envie d'espérer qu'on va comment dire, apprendre un petit peu de tout ce qui s'est passé, etc. etc. J'ai envie de l'espérer, mais malheureusement, quand je regarde un petit peu ce qui se trame pour le futur à moyen terme, je ne sais pas si vraiment on va pas faire une sorte de revenge, consommation de masse à tout va, etc. etc. Donc, moi, j'ai envie d'espérer que demain, on va se poser des bonnes questions sur notre façon de consommer, je ne sais pas, même typiquement de la viande. Parce que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de pandémies, etc., sans rentrer dans les grands débats sans fin, parce qu'on est sur un podcast de quelques minutes. Mais voilà, j'aimerais beaucoup qu'on se pose les bonnes questions. Moi, j'essaye de me les poser, ce n'est pas nouveau, que ce soit ma façon de voyager, etc. etc. Donc, j'espère que ça nous aidera à nous poser les bonnes questions. En tout cas, moi, je sais que de façon perso, ça m'a permis d'avancer sur des projets perso. J'ai sorti un jeu de société, je vais penser à sortir une marque engagée, responsable, éthique dans cette année. Ça, c'est aussi un gros projet, ça va être un beau périple.
Bruno, peux-tu cesser d'être modeste? Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 infos sur ton jeu de société? Ce n'est pas du tout un truc de pub, Bruno ne me paye pas, mais j'ai tellement d'affection pour ce garçon, je dois le laisser faire de la pub pour son jeu de société.
Non, mais c'était une idée toute bête qui est venue au fil du temps. J'avais le directeur édito de Lonely Planet qui m'avait envoyé un petit email. Et en général, quand le directeur édito de Lonely Planet t'envoie un email, tu lui réponds. J'ai répondu « T'es qui ?» TKI. Non, je rigole, j'ai pas dit ça du tout. On s'est croisés. À l'époque, on pouvait encore se croiser. Il voulait que j'écrive un livre à la base, mais je me sentais pas forcément de faire un livre. Je voulais pas faire un livre, entre guillemets, juste pour faire un livre. Tu vois ce que je veux dire. Mais je suis un grand joueur, personnellement. J'adore les jeux de société, etc. Donc, je lui ai proposé de faire un jeu. Un peu original, avec pas uniquement de la culture générale, mais aussi des cartes actions, etc., etc., de la stratégie. Et ça a plutôt bien marché parce que c'est vrai qu'en l'espace de 3-4 mois, il s'est vendu à 20 000, 25 000 exemplaires, ce qui est cool pour les jeux de société. Mmh. À la base, on devait en vendre que 10 000. Mon éditeur m'avait dit ça, si on en vend 10 000, ça sera déjà très bien. Et le projet a tellement plu qu'on en a vendu 10 000 en 4 jours, je crois. Donc, c'était vraiment ouf, en fait.
Tu peux nous donner le nom du jeu, quand même?
Il s'appelle « Votre retour du monde », le jeu de société, comme mon blog voyage à la base. Et c'est peut-être ça aussi ouais, qui m'a donné l'envie de me lancer cette année encore dans un autre projet qui est une sorte de marque communautaire, parce que je trouve qu'aujourd'hui, OK, tu as Patagonia, OK, tu as Quechua, etc., etc. Mais ce qui manque, je trouve que c'est une vraie marque engagée, responsable, etc., évidemment, qui te permette, si tu es demain en tour du monde, au fin fond de la Nouvelle-Zélande sur un trek et que tu vois un mec avec une casquette à l'envers et le logo de la marque que je suis en train de créer, en tout cas en phase de réflexion actuellement, te dire « Ah ok, cette personne-là, c'est une personne francophone, une personne bienveillante, une personne qui a des good vibes, qui sera voilà, dans le même mood que moi et pourquoi pas faciliter les échanges ?» Moi, j'ai vraiment envie de créer quelque chose. En fait, c'est mon but de base depuis le début, c'est de créer une communauté, mais pas de créer une communauté juste autour de moi, en fait, de créer une communauté autour du voyage. Et c'est aussi ça le but du jeu de société. Le but du jeu de société, selon moi, c'est de te rassembler avec tes proches, que ce soit des amis, ta famille ou je ne sais quoi. Et tu sais, tu t'assois autour d'une table et tu joues à ce jeu. Et je trouve ça trop cool, en fait, de rassembler les gens dans la vraie vie. Je fais aussi le verre du voyageur, d'ailleurs. Je sais pas si t'es encore venu, il faudra que tu viennes le jour où on pourra le refaire. Mais à chaque fois, tu as 1000 personnes qui viennent dans le but de parler de voyage le temps d'un soir. Et ça, c'est trop cool de faire dépasser les frontières du virtuel jusqu'au réel. C'est mon kiff.
Alors, je précise pour les auditeurs, parce qu'on est en audio et pas en vidéo, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Bruno. Bruno a toujours une casquette à l'envers dès qu'il se montre en public, mais alors il y a quelque chose qui est très énervant. Pour une personne comme moi, qui déjà a l'air d'une quiche avec une casquette mise dans le bon sens, donc je ne vous parle même pas de la tête que j'ai avec une casquette à l'envers, mais lui, il est beau gosse avec une casquette à l'envers et c'est très énervant, Bruno. Donc, il va falloir arrêter tout de suite avec ça.
Je pense que ma tête s'est adaptée en vrai à la casquette au fil des années. Tu vois. Doit être ça.
Alors, Bruno, on arrive à la dernière question. Donc, c'est la seule où je t'ai demandé de travailler un petit peu. Je t'ai demandé de choisir ton mantra ou ta citation préférée. C'est la question traditionnelle de fin de Happy Work. Donc, quelle est cette citation ou ce mantra et pourquoi ce choix?
La citation, ça serait « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ». Parce qu'en fait, même si évidemment, il y a mon nom un petit peu partout sur Internet, j'ai jamais été aussi efficace, avancé aussi bien sur mes projets que depuis que je me suis bien entouré. Un exemple tout bête, l'année dernière, comme tu disais très bien, j'ai un blog voyage depuis 2012. l'année dernière, pendant le confinement 1.0, quand on était tous bloqués chez nous, je me suis dit, ben, je ne vais pas rien faire non plus. Et j'ai décidé de refaire de A à Z le design de mon blog.
Nouveau logo.
Nouveau logo notamment, etc. Et typiquement, tu vois, mon logo, il datait de 2012. Je me l'étais fait moi-même à l'époque. Il était cool en 2012, clairement moins cool en 2020. Et c'est là que j'avais fait un appel en story sur Instagram à ce qu'on m'envoie des kits médias, des logofolios, des portfolios, des graphistes quoi, qui me contactent, qui prennent contact avec moi. Et j'ai bossé avec un studio graphiste qui m'a accompagné sur le projet et ils m'ont fait un travail extraordinaire. Mon logo, je trouve trop parfait. Mon blog, je trouve vraiment canon. Et je peux le dire parce que ce n'est pas moi qui ai bossé dessus. Donc au moins, ça ne fait pas le mec égocentrique. C'est vraiment eux qui ont fait un travail extraordinaire. J'ai Clément qui m'accompagne depuis quelques temps sur la vidéo, sur plein de choses. Et je trouve que faut savoir s'entourer, même quand tu es indépendant. Il ne faut pas rester tout seul dans ton coin. OK, tu iras sans doute plus vite parce qu'il y a moins de gens à gérer, etc., etc. Mais n'empêche, la qualité du travail à moyen terme, elle ne sera jamais aussi bien que quand tu t'entoures et surtout quand tu t'entoures des bonnes personnes. Alors ça prend beaucoup de temps. Toi, tu le sais très bien, de trouver les bons collaborateurs qui connaissent bien ton univers, ta vision à moyen, à long terme, etc. Mais à partir du moment où tu l'as fait et où tu as trouvé les bonnes personnes, franchement, c'est que du bonheur et c'est encore plus agréable.
Bah écoute, Bruno, j'ai envie de te dire, je souhaitais passer quelques minutes de plaisir à papoter avec toi comme je le fais à chaque fois que je te croise. J'espère que ça se transmet aux gens qui vont nous écouter, mais j'ai aucun doute là-dessus. C'est encore une fois, si vous ne connaissez pas Bruno Maltor, allez le voir sur Insta, même sur LinkedIn. Il vient sur mon territoire, sur LinkedIn. Et c'est une honte, monsieur Maltor. Les entrées mises à part, que ce soit son site web, son Insta, son YouTube, sur LinkedIn, c'est que des ondes positives. Et dans un moment où on se renferme un peu sur nous-mêmes et chez nous, Bruno, tu es une bulle d'air encore plus que jamais. Et je te remercie des quelques minutes que tu m'as accordées. C'est un vrai bonheur et je te souhaite plein de bonnes choses pour les années à venir.
Merci de m'avoir invité. C'était très cool. À bientôt.